suffit à tout faire basculer. Elle en est sûre, sûre d'être à l'origine de l'horreur. Elle aurait pris un couteau ou un pistolet pour l'abattre de sang-froid, cela n'aurait fait aucune différence. Elle s'effondre. Au sol, entre ses mains impuissantes, la tête sans véritable visage de Blaise, ses yeux éteints. Elle entend tout ce que ce faciès semble lui dire. Et c'est cela qui est odieux. La tête entre ses mains l'accuse sans mots. Oui, elle est coupable. Coupable d'avoir maintenu Blaise en vie tout ce temps, non pas pour lui, mais bien pour elle. Elle a péché par orgueil, s'est crue plus pure, meilleure que les autres. Ces autres, elle les a jugés, comme si elle pouvait se permettre de juger qui que ce soit. Et juste après, elle a failli, un instant. Blaise est sorti de son esprit. Cela a suffi. La faute est trop lourde. Elle la sent peser sur son dos, dans son cou, au creux de ses mains qui soutiennent le crâne de Blaise. Le poids la plaque au sol. Elle gît à côté de la dépouille de son mari et à cet instant, ne souhaite qu'une chose, partir avec lui. La tête lui tourne déjà. Du tapis, les vapeurs volatiles de l'éther se font parfum. Insidieuses, elles envahissent son cerveau et l'attirent dans leur jardin morbide où la chair, mutilée ou honteuse, n'a plus la moindre importance. Elle s'est précipitée dans l'escalier sombre, a sauté des marches, a manqué tomber, s'est retenue, est repartie. Elle ne doit pas vaciller, pas maintenant. Elle pénètre enfin dans la pièce aveugle. Elle agit sans penser, ouvre la fenêtre avant d'oser respirer. Elle suffoque presque. L'odeur toxique prend à la gorge. Ça sent comme la mort. La chasser, peut-être n'est-il pas trop tard pour la dissiper, pour la dissuader, pour la doubler, pour la tromper. Elle inspire un grand coup d'air frais et se retourne. Au sol, dans le carré de lumière blanche, la pleine lune s'est levée cette nuit-là, elle distingue deux personnes emmêlées. Curieuse créature, deux bras, deux jambes, deux têtes, une hideuse et une agréable, emboîtées, soudées dans une immobilité effrayante. Elle se penche sur le monstre hybride à la recherche d'un signe, d'une respiration, d'un battement de cœur. Madame réagit faiblement. À genoux, au-dessus d'elle, elle la retourne, dégage son visage, lui donne de l'air, tapote les joues pâles, déboutonne le chemisier. Elle voudrait que Madame ouvre les yeux, parle, se lève, prenne les choses en main. Mais Madame reste molle, inanimée. Elle respire si peu. Il faut s'approcher de sa bouche, de son nez, pour s'en assurer. Oui, elle respire encore. La petite bonne voudrait appeler à l'aide, mais comment faire? Il n'y a qu'elle et la nuit. Maintenant, la solitude lui pèse. Son inutilité lui saute au visage. Face au corps inanimé de ses patrons, elle éprouve la véritable peur. Elle a la sensation diffuse qu'on la tire par les pieds, par le cou. On l'appelle, on la réveille, on la ranime. Dans le jardin grisâtre où elle est étendue si paisiblement, les fleurs au parfum vénéneux se floutent, s'effacent de son esprit jusqu'à disparaître. Quand elle revient à elle, Alexandrine distingue le visage inconnu d'un homme moustachu. Il lui sourit, avec un soulagement visible. Elle comprend vite où elle est, allongée à même le sol, dans son salon, et tout lui revient. Elle tourne la tête à la recherche de son mari. Elle étouffe un cri. Il a été déplacé plus loin pour faire de la place. Son visage est recouvert d'un tissu. L'homme à la moustache est penché sur elle. Il l'appelle. Madame Daniel. Il l'invite à détourner.